Et voici la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Le monde et la presse mondiale face à l'ère des catastrophes. La première à nous interpeller ce matin, c'est la catastrophe aérienne qui a eu lieu en Éthiopie hier.
Et dans l'Ethiopian Reporter ce matin, on lit le choc dans lequel cet accident et la mort de toutes les 157 personnes à bord a plongé toute l'Éthiopie, si fière de sa compagnie aérienne nationale. La compagnie Ethiopian Airlines qui avait acquis l'été dernier 6 avions du dernier modèle de chez Boeing, le 737-8 Max. Aujourd'hui, les 5 appareils restants sont cloués au sol, le temps de comprendre ce qui a entraîné le crash d'hier matin, juste après le décollage d'Addis Abeba. Le pilote, qui était expérimenté, nous dit-on, avait alerté la tour de contrôle des problèmes techniques qu'il rencontrait, révèle le reporter. Mais il n'a apparemment rien pu faire pour éviter le pire, et ces circonstances encore très floues de la catastrophe ont très vite alerté d'autres médias à travers le monde. En Indonésie, par exemple, le Jakarta News a fait le lien avec cet autre avion qui s'était écrasé en mer fin octobre, faisant cette fois 189 victimes. Même modèle, ce 8 Max, version modernisée du Boeing 737 qui venait d'être livré. Et même type d'avarie technique, une vitesse verticale impossible à stabiliser dans les premières minutes après le décollage, et finalement un avion qui pique brusquement vers le sol. Il est trop tôt, bien sûr, reconnaît le Washington Post, pour aller plus loin que de soulever ces coïncidences, mais force est de constater que l'avionneur américain leader sur le marché mondial se retrouve ce matin au cœur de lourdes interrogations. Pékin, nous apprend The China Daily, a décidé de clouer au sol tous ses avions de type 737-8 Max, le temps d'y voir plus clair. La Chine, qui compte une soixantaine de ses appareils dans la flotte de ses compagnies nationales. Dans USA Today, enfin, on lit que Boeing n'est peut-être pas responsable de ces deux catastrophes, mais que la société a reçu en 5 mois 2 sérieux coups portés à sa réputation. L'une des pistes pour expliquer les déboires du 8 Max pourrait être un défaut de formation des pilotes à travers le monde. Boeing n'a pas jugé bon au moment du lancement de ce 8 Max de mener une campagne coûteuse de réentraînement des commandants de bord, jugeant que les évolutions sur le nouveau modèle étaient minimes.
Et alors évidemment, on ne sait pas encore ce qui est arrivé précisément, mais on avait dans Superfell interrogé un expert aérien, Bertrand Villemer, qui expliquait qu'il y avait potentiellement un scandale derrière cette question, donc avec ces 737 MAX 8, et c'est peut-être malheureusement ce qui va se vérifier après cette catastrophe aérienne. Vous pouvez retrouver le Superfell sur le site de France Culture, franceculture.fr. Autre chose maintenant, Camille, 8 années après l'apocalypse, la presse japonaise est retournée à Fukushima.
Et parmi les nombreux reportages qui marquent le 8e anniversaire de cette triple catastrophe-là, séisme, tsunami, accident nucléaire majeur, j'ai retenu pour vous ce qui concerne la question du retour des habitants sur les terres contaminées. Cette question, elle est posée notamment par le Japan Times. On dénombre toujours 52 000 déplacés dans la préfecture de Fukushima. Et la question, c'est de savoir s'il faut ou non qu'ils reviennent chez eux. Le gouvernement nippon, lui, pousse au retour pour montrer au monde que les conséquences, les séquelles de la catastrophe sont bien gérées et qu'elles s'effacent rapidement. À ce compte-là, seuls 3% de la région de Fukushima reste interdite d'accès et pourtant 23% de la population au total est rentrée chez elle. 4000 personnes vivent toujours dans des préfabriqués et c'est le Japan News qui est allé à leur rencontre en cette journée anniversaire. On y vit souvent à plus de 10 dans un modeste bungalow. La solution temporaire prévue au départ pour 2 ans n'en finit pas de durer, tant il est vrai qu'il semble inimaginable à ces déplacés de rentrer chez eux. Et pour ceux qui veulent encore garder le lien avec leur ancienne maison là-bas, ça donne ce reportage étonnant de l'Asahi Shimbun avec cette famille qui vivait à 4 km des réacteurs noyés de Fukushima et qui n'est autorisée à retourner dans sa maison que certains jours de 9h à 16h. C'est assez pour la grand-mère Kimura, 90 ans, qui tient à ses journées en zone critique pour, dit-elle, retrouver le calme et le bon air de sa vie d'avant. Ailleurs, en zone soi-disant habitable, Oshimizu a rouvert son bar. Il a réussi à en faire à nouveau un lieu de vie, de réjouissance dans un quartier où de nombreuses maisons restent vides. La vie a repris presque comme avant, à la différence que désormais Oshimizu doit faire près de 50 km pour acheter de la nourriture propre à la consommation, car le gouvernement dit aux habitants que ce qui est produit sur place à Fukushima n'est plus dangereux, mais bien peu le croient, et ils ont sans doute raison à lire cet autre article de Japan News.
Et puis au Brésil, enfin, on questionne la notion même d'accident. Moins de 2 mois après la catastrophe minière qui avait vu la digue d'un barrage rompre et ses eaux polluées ravager une vallée tout entière.
Camille. Oui, la définition même de l'accident comme événement que l'on ne pouvait pas prévoir et donc dont on n'est pas responsable est remise en cause par le groupe de presse brésilien Globo.
As investigações até o momento, elas demonstram que não foi um acidente. Acidente. Diz o dicionário.
Globo TV qui a eu accès à la soixantaine de témoignages recueillis pour l'heure par les enquêteurs et il y apparaît donc que non, la société minière Vale qui exploitait la mine de Brumadinho et ce réservoir de déchets toxiques qui a rompu ne pouvait ignorer les risques de rupture du barrage. Vale aurait fait pression sur au moins un expert international pour qu'il atténue la gravité de ses conclusions dès 2017 quand il était reparti de Brumadinho en alertant sur les fuites qui étaient en train de fragiliser tout l'édifice. Face donc à ces alertes, affirme le quotidien local au Estadão de Minas, la société minière, plutôt que de prendre d'urgence les mesures qui s'imposaient, a concentré ses efforts pour intimider les experts, pour ne pas qu'ils fassent état de leurs craintes. Plus grave encore, Vale a financé, a lancé fin 2017 la construction de canalisations dans le barrage pour détourner une partie des eaux contaminées et réduire la pression, mais cela aurait eu pour conséquence d'affaiblir encore plus toute la structure. Cela aussi, les ingénieurs qui témoignent aujourd'hui affirment qu'ils l'avaient prédit à Vale, dont la publication de ces informations a conduit le PDG Fabio Schwartzmann à quitter ses fonctions la semaine dernière. Entre-temps, on le rappelle, des millions de tonnes de boue contaminées aux métaux lourds et aux produits chimiques se sont déversées dans la vallée de Brumadinho. C'était à la fin du mois de janvier et ça avait fait 197 morts, 111 disparus, des conséquences sur l'environnement que l'on est encore loin de mesurer.
Merci beaucoup Camille Magnard. Il est 7h45. Vous retrouvez la revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.